Alien et les garçons, épisode 65. Bienvenue dans trois mondes meilleurs.
Bonjour et bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 65. Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Bonjour Vic.
Bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour Florian Vic. Et Vic.
Ah, bonjour, bonjour Thomas.
Dites-vous bonjour.
Bonjour.
Des bisous.
Bonjour. Arrêtez.
Retour au bunker. Est-ce que le bunker est notre nouvel château?
Notre nouveau château.
Ouais, ouais, moi, écoute, le genre, moi, je suis vachement fluide. Est-ce que c'est notre nouveau château? Peut-être, je ne sais pas. Nous nous retrouvons ce soir avec le thème routier. Merci qui?
Merci Bobby.
Ouais. Bob.
Non, on a oublié le nom de l'auditeur. Aucun d'entre nous ne l'a, on ne le retrouve pas. On est vraiment désolé.
Si
l'auditeur nous envoie un message, on lui envoie des stickers et une lettre d'excuse personnalisée de 10 pages de Vic.
Cherchait des yeux lequel il avait
Mais du coup, tout le monde va lever la main et va dire
oui, c'est vrai, on va recevoir 150. Oui, c'est moi, Bobby. Non, tout ça, c'est de la mascarade. Non, par contre, on est vraiment désolé pour l'auditeur. C'est gentil de nous envoyer des thèmes. Vous autres aussi, vous pouvez nous envoyer des thèmes sur Twitter, Facebook, par mail, où vous voulez. On prend et peut-être que vous serez à l'origine de trois chroniques de haute volée remarquées par les plus grands cercles littéraires tels que le Goncourt.
Et des réalisateurs aussi, t'as oublié de parler de Steven Spielberg qui nous a envoyé Seagal un mail aussi.
Scott Ridley, je crois, son genre.
Scott Ridley. Ouais. Sur Gmail, lui, ouais, je pense.
C'était Scotty du 69 à Gmail. C'était lui.
Et je crois que c'est du 69 parce qu'il est américain.
Oui, il est américain. Ouais. Ça doit être ça. De quoi parle ta chronique, Florian, à propos donc du thème
J'ai rien préparé. Elle va vous parler du dernier garde-péage de France.
Du dernier garde-péage
On dit un garde-péage.
J'en ai aucune idée.
J'en ai une gare, parce que voilà.
Non, c'est du dernier garde-péage.
Ah, garde-péage.
Le mec qui est là sur place et tout, et qui garde
les péages. Ah, ça c'est beau, c'est les espaces, on appelle ça des lineal space, vous voyez ça, il y a un subreddit sur ça.
Oui, absolument. Tous les lieux dans les aéroports, étonnant, les musées.
Ça, c'est, on en parlera dans ta chronique. Ouais, merci Florian. Un beau teasing. Vic, de quoi parle ta Crovic?
Ma Crovic parle d'un camion. D'un camion de glace.
D'accord.
Qui se trouve.
Est-ce que tu es en train de créer ta chronique au fur et à mesure?
À chaque fois, il le fait. Un épisode sur trois.
Ça parle. Il y en a marre. C'est pas possible. Non, ça parle d'un camion de glace qui ne vend pas de glace, mais qui fait d'autres choses que vous découvrirez dans la chronique.
Quand t'as dit camion de glace, j'ai pensé à un camion fait en glace.
Ah, mais non, t'étais trop con par contre. Ouais.
Je me suis dit, mais d'accord, mais t'as une gueule là, c'est pas possible.
Non, un camion d'un marchand de glace.
Voilà, il s'appelle Mr. Ice Cream. C'est aussi le titre de la chronique, Mr. Ice Cream, pour Thomas, le montage.
Merci, sans problème, je m'en occupe, je suis toujours là à l'affût.
Et toi Thomas, de quoi nous parle ta chronique aujourd'hui?
Merci de m'interroger Vic.
Eh bien, toujours.
Alors ma chronique, je l'ai écrite il y a plusieurs semaines, j'ai un peu tout oublié. Toutefois, je me souviens qu'elle était soumise à la nouvelle règle contrainte. C'est toi qui m'as donné le contrainte.
Oui, et quelle contrainte bah, c'était, tu devais être dans un univers de blockbuster.
Tout à fait, donc je vais pas vous le révéler là tout de suite, mais donc j'ai écrit, en gros ce que j'ai fait c'est une fanfiction.
Une fanfiction.
Du coup, ça se passe dans un univers qui existe déjà.
Et tu veux pas nous dire quel univers, c'est
non,
ça?
Non, je vous le révéler au fur et à mesure.
C'est une fatigue sur nous.
Non, un truc,
ça, j'ai déjà fait
on
ça.
A dit blockbuster, nous personnellement en termes d'entrée on est très très bas. Non, vous, ce qu'on va faire c'est plutôt que vous allez deviner au fur et à mesure de la chronique. Et quand vous savez, à la fin, vous me direz à quel moment vous avez percé le secret. Parce que, et à un moment donné, vous allez le trouver pour sûr, mais peut-être que vous allez trouver avant par rapport aux petits indices que je dessine à gauche.
C'est
un petit peu un jeu dans le jeu. C'est pas mal. Et donc, de quoi parle ma chronique, pour répondre à ta question, Vic, ça parle de cette tentation en nous de disparaître, de tout plaquer, cette tentation qui habite en chacun de nous constamment, qui parfois revient à dire disparaître, dire à personne, ni la famille, ni rien, et partir. Voilà.
Et c'est le héros du blockbuster ou pas? Ou rien à voir, il est juste dans l'univers?
Ah non, justement, je trouvais ça plus drôle de prendre quelque chose de complètement side project.
C'est l'univers,
mais même pas un personnage.
C'est un mec de la banlieue de Gotham, quoi.
Non, c'est pas ça. Mais oui, en fait, ce qui est drôle, à mon sens, mais après, ça peut être très marrant de reprendre un autre truc et de prendre Batman et d'écrire que Batman, quand il rentre chez lui, en fait, il est amoureux de Nestor, ça peut être très drôle aussi. Hein.
Mais je pensais d'un.
Non, mais ça peut être drôle de faire ça, mais ça peut être très drôle d'avoir soit un second rôle de second rôle, et moi, dans l'occurrence, c'est même un personnage qui n'existe pas, mais qui se passe dans l'univers.
Est-ce que tu croises à un moment donné, tu vas peut-être pas nous le dire maintenant, mais est-ce que tu croises à un moment donné un des personnages de l'univers ou non?
Non. Non, c'est un monologue.
Et tu...
Mais attendez, on y arrive.
Mais non, on a envie de savoir tout
c'est tentant.
Est-ce que c'est un univers de super-héros?
Non.
Est-ce que c'est un univers de blockbuster américain, des questions con, ou de blockbuster bulgare?
Un homme ou une femme?
Le blockbuster bulgare. Non, non, je vous en dirai pas plus. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est je voulais pour continuer parce qu'on va faire un petit portrait chinois d'Aigle-Mago.
Ah, moi, je voulais le vous... putsch a marché.
Ouais, ouais, bah, ouais, mais en fait, je vous le fais parce que.
D'ailleurs,
aussi,
tu devais. Que... Excuse-moi, Thomas,
ça
mais on parle.
Pas ce que je...
Non, mais c'est qu'on parle avec Florian.
Merci.
tu devais ton putsch, tu devais le pousser en faisant à chaque fois.
Oui, oui,
tu
bien
as
sûr,
oublié.
Bien sûr, je bah,
t'en avais un?
Non, pas du tout.
Ah, mais sinon, je te laissais faire, y a pas de problème.
Je t'en avais donné un.
Mais attendez.
Tu te rappelles plus?
Ah, si, c'est vrai.
Vas-y,
avant ça, je voulais signaler aux auditeurs que, et parce qu'on joue la carte de la transparence avec nos auditeurs, la carte blanche de la transparence, on est fatigué. On a eu une dure semaine là.
Non. Et elle n'est pas finie.
Et on devait même enregistrer hier, on a annulé parce qu'on était trop claqué et tout. Là,
et on devait enregistrer l'antépénultième.
Ouais, c'est hyper
jour
compliqué, on est vraiment fatigué, on a passé des dures semaines. J'ai un cadeau pour vous, pour vous remonter le moral.
C'est quoi le cadeau?
C'est pas vraiment moi qui ai un cadeau, c'est Eve. Je reviens.
Eve?
Attends, il s'en va vraiment? Il enlève son casque? Qu'est-ce qu'il fait?
Bah, oui.
Ah, il a vraiment un cadeau emballé.
Ah, mais c'est le cadeau d'une chroniqueuse?
Non, d'une auditrice.
Oui, oui.
De quoi tu parles?
C'est
nous les auditeurs, on est les chroniqueurs. qui nous l'a envoyé il y a un bon moment déjà, mais on ne s'est pas vu déballer, depuis. Quoi.
Alors, et c'est un paquet cadeau à la fois de Noël et en même temps très... Il y a du gros scotch.
Ouais, parce qu'il est à la fois de Noël et postal.
C'est ça.
Et elle nous l'a envoyé pour Noël, mais malheureusement, on ne s'est pas vu avant. Enfin, on s'est vu, mais pas dans le cadre d'Aline et les garçons, c'était compliqué. Et je me suis dit, cet épisode fera l'occasion de l'ouvrir.
Je défonce.
Est-ce qu'on peut révéler son adresse?
Elle habite dans la banlieue de Lyon.
Ah, c'est un premier indice. Elle habite dans un passage, de ce que j'ai lu.
Oh là là, ouais, c'est compliqué.
J'ai pas suivi après.
Tu l'as déglingué par contre. Aucun respect pour le travail.
Et pourtant, j'ai toujours pas ouvert.
Mais c'est fragile peut-être.
Peut-être que c'est de l'anthrax. Hein.
Ça, on va peut-être assister à la mort de Florian en direct.
Ouais.
Ah, je sais ce que c'est. Ah, mais est-ce qu'on va faire ça?
Il y a des petits mots.
Elle fait du scrapbooking.
Ah ouais, c'est certainement impressionnant.
C'est une pop-up carte. Pop-up carte.
C'est fait maison, ça, non?
C'est fait maison, je pense.
Oh
oui, tout à fait. Oui.
Mais nos auditeurs ont du talent.
Je vois rien.
Non, c'est trop personnel, tu peux pas lire.
Non,
lis-le pour toi. Mais
non, garde-le dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur.
En
tout cas, Florian, il fait un visage.
Ah, mais c'est des trucs qu'elle a fait elle-même après, en plus. C'est petit biscuit de Noël maison.
C'est extrêmement impressionnant.
Ah, plein. Il y a un chacun, plus un bonus pour moi.
Merci.
Ah, c'est ça qu'on s'était dit?
Oui, c'est ce qui est marqué sur la carte.
Hein. D'accord. Et honnêtement, alors attendez, d'abord on va goûter.
Present for you.
Parce que peut-être que c'est empoisonné qu'on va mourir.
Ah, oui, c'est possible.
Ah non, mais c'est impressionnant ça.
C'est, ouais.
C'est quoi ça?
En tout cas, c'est adorable.
Et franchement, alors attendez, vous souvenez, il y a genre un ou deux ans, on faisait des classements de nos auditeurs préférés.
Ah, voilà.
Bah, elle passe premier direct. Direct, auditeur.
Il y a le bonheur de Shrek.
Je pense qu'on peut remercier Eve.
Merci.
Quoi qu'il en soit. Parce que donc, du coup, Eve passe première au classement des auditeurs, on est d'accord?
Ouais, oui, bah oui.
Nous c'est difficile de détrôner.
Dans le hit parade des auditeurs, c'est numéro 1. Maintenant, voilà, il va falloir nous envoyer directement soit du cash, vous nous faites un Lydia, vous nous faites un virement, voilà.
Ouais, il va falloir trouver mieux. En tout cas, j'aime bien recevoir des cadeaux, moi.
Ouais.
Mais c'est pas pour ça qu'on avait
c'est
fait
bon
le podcast à la base.
Ouais, bon.
C'est pas pour ça. C'était que pour ça.
Si, c'était que pour les cadeaux.
Ouais.
Et il a fallu attendre 3 ans et demi pour recevoir. Je crois pas qu'on ait déjà reçu des cadeaux. On a reçu des dessins vite fait, des beaux messages pleins.
Ouais.
Mais c'est pas grave, Florian, t'inquiète pas. Bon, écoutez, merci beaucoup à Eve. Merci à Eve. On a mis beaucoup de temps à manger tes petits biscuits, mais ça nous touche beaucoup. Que dire, voilà, c'est toi, t'es numéro 1 maintenant. Number one
dans nos cœurs.
Donc ça va déjà beaucoup mieux, on est déjà beaucoup moins fatigué.
Moi, je propose que son nom devienne un thème de chronique.
Eve.
Ouais.
Ah ouais, mais c'est-à-dire que les autres gens qui vont nous envoyer d'autres thèmes après.
Tant pis, c'est pas le numéro.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dévendu, c'est que tous les gens qui nous envoient des cadeaux,
ouais.
On échange, on fait un thème sur leur nom. Ok, on peut faire ça. Donc le prochain épisode, il est déjà choisi.
Dans deux
okay,
épisodes.
Ce sera Eve.
Mm-hmm.
Ok, si tu veux.
Pour l'épisode de mars.
C'est toi, Florian, qui t'engage.
Ouais.
Toi, dès que c'est une fille, t'es toujours un peu comme ça. Toi, t'es
vraiment
non.
C'est un romantique.
Mais quel cœur d'artichaut. Mais c'est un joli cœur, Florian. C'est un joli cœur. Ouais. Il est toujours en train de chafouiner.
Il chafouine.
On va continuer. Merci beaucoup, Eve. C'est vraiment cool de ta part. On se parle comme ça, par interaction. Moi, j'avais quand même un petit portrait chinois d'Aigle-Mago.
Allez, vas-y, balance.
Pour redonner de l'énergie en plus. Et c'était aussi pour exorciser ce qui a pu se passer au dernier épisode. Il est possible. On a reçu des messages. Beaucoup de gens qui ont dit que peut-être l'identité d'un chroniqueur ici présent, qui porte un pseudo, aurait été révélée à plusieurs reprises. Bon, du coup, pour exorciser ça et pour qu'on oublie, je vais vous demander quel est votre prénom totem. Quel est votre prénom totem si vous, en gros, si vous devez vous appeler d'une certaine manière, c'est quoi? ce serait quoi finalement le vrai prénom qui vous irait bien. Si vous voulez, moi je peux attaquer pour moi parce que moi j'ai déjà réfléchi.
Vas-y, attaque pour toi.
Moi je pense que je m'appelle Thomas, j'aurais largement dû m'appeler Dimitri.
Dimitri ? Mais totalement.
Je pense que j'aurais dû
Dimitri, c'est le MJ par excellence, tu vois, qui est dans les caves de Villeurbanne à faire des jeux de rôle, quoi.
Dit comme ça, c'est moins sympa, mais Dimitri, moi je trouve que j'ai un côté Dimitri.
Dimitriesque.
Je suis d'accord.
Ouais, je suis d'accord.
Moi je dirais Ricky ou Ricky. Johnny.
Ricky, c'est mieux Ricky.
Ouais, Ricky. Mais j'aime bien Johnny aussi, vraiment. Hein.
Johnny avec un D devant. D-J-O-N-N-Y.
J'ai croisé un petit gars qui avait peut-être 5-6 ans une fois et qui s'appelait Johnny. Et il était super cool, quoi. Et il m'avait.
Enfin, ça m'avait. Attends, on te demande pas ce que tu trouves cool, on te demande ce qui te caractérise le mieux. Mais je pense que Ricky, ça marche bien.
Ouais, j'aime bien.
Pas trop Johnny, mais Ricky, oui.
Ricky.
Putain, je serais pas allé sur Ricky pour Vic, mais pourquoi pas? Si c'est ton choix, je ne discute pas. Ricky.
Du coup, tu serais allé sur quoi?
Rémi.
Pourquoi Rémi?
Je sais pas, Boris.
Il est souvent avec Dimitri dans les caves à faire des jeux de rôle. Tu vois,
je préfère Ricky. Hein.
Ricky, ok, ouais. Ricky.
Donc Ricky, Dimitri et.
Bah, moi, ça me paraît évident, non? Moi, c'est.
Benoît.
Bob.
Pourquoi Bob?
Bah, Bob. Robert, bûcheron, sensible, Bob.
Quoi?
Bah.
C'est sûr. Ça a l'air d'être hyper évident.
L'évidence même.
La baignouche.
La baignouche, Bob. C'est Bob, quoi. Enfin, c'est Robert, mais tous mes copains m'appellent Bob. Enfin, Dimitri, Ricky.
Je comprends. C'est quoi ? Et je pense que là, on est en train de toucher à la limite et on trouve un peu les failles du portrait chinois des lingots. Il y a des moments où juste ça marche pas. Quoi, genre. Ricky.
Mais bien sûr que
Ricky,
si.
Ricky, mec. Écoutez, quoi.
Écoutez, si vous êtes d'accord.
C'est un très bon Dimitri, c'est un très bon Ricky.
Au 01 37 44 32.
Non seulement je pense que je suis d'accord, je suis même sûr d'être d'accord, mais en plus je pense qu'on devrait s'appeler comme ça dans le prochain épisode.
Pourquoi le prochain, on aura oublié d'être d'ici là?
Ouais, bon, alors on s'appelle comme ça jusqu'à la fin de cet épisode.
Ok, Ricky.
Jusqu'à la chronique.
Ricky, Bob et Dimitri.
Et Dim.
Dim.
Dim?
Bah oui.
Ok, putain, on dirait un boys band. Franchement.
Ricky, Bob et Dim.
Les Toby Free qui ont pris cher, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, les amis. On finira par un. Je pense que c'est une intro extrêmement longue, mais bon, voilà, on a besoin de ça, on est fatigué. C'est avant ça. C'est thérapeutique, les garçons.
Mais
avant
bien sûr.
Pour nous, j'espère pour vous aussi, chers auditeurs.
Cathartique.
Cathartique, thérapeutique. C'est pas pareil, mais dans les deux cas, c'est thérapeutique, cathartique. Moi, je voulais juste préciser qu'on finirait par un quiz de Florian, et ça aussi, c'est thérapeutique.
C'est vrai, j'avais oublié.
T'as oublié au point de ne pas l'écrire?
Non, je l'ai fait quand même il y a une heure.
Très bien.
Mais j'avais oublié que je l'avais fait il y a une heure.
Très, très bien. Ta première chronique, Florian?
Allez.
On y va ou pas?
Bien sûr. Oui,
allez.
Eh ben, jingle, virgule, poutre.
Un phare dans la nuit.
Comme tous les soirs, Cooper remplit le rapport d'activité de la journée. Véhicule léger, 0. Poids lourd, 0. Chiffre d'affaires, 0. Intérêt pour la vie, 0. Cette dernière ligne est écrite à la main, à la suite du modèle infographié surmonté de l'entête de l'entreprise Aurora Road Services. Après avoir paraffé le formulaire et signé à l'endroit prévu, il fait défiler les dizaines de pages remplies de 0 avant de refermer le carnet d'un coup sec. Il prend appui sur ses jambes, et propulse sa chaise à roulettes vers l'autre côté de la pièce en béton, décorée sommairement. D'un geste mécanique, il ouvre la fenêtre guillotine et s'allume une clope. Il tire une première taffe et l'expulse lentement. Son regard se dirige vers le ciel noir, parsemé de points éclatants, avant de se perdre dans leur lent mouvement linéaire et hypnotisant. Ces étoiles, qui avancent toutes dans la même direction et à vitesse constante, sont exactement ce qui inspire chez Cooper un profond sentiment de morosité. Depuis quelques dizaines d'années, ce qu'on appelle communément les voitures volantes ont remplacé les véhicules terrestres. Plus sûrs, plus écologiques et plus rapides, elles quadrillent le ciel de leurs traînées lumineuses en pointillés le long d'autoroutes célestes invisibles. Et cela, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un vrombissement électrique permanent. Une avancée technologique qui a révolutionné les moyens de transport dans le monde entier, mais qui a mis Cooper au chômage technique. Le vieil homme de 64 ans est agent technicien coordinateur de la gare de péage autoroutier de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Depuis qu'il a été embauché, il a vu les bureaux se vider petit à petit de ses employés. Pour une raison qu'il ignore, il a réussi à échapper au rouleau compresseur du transport aérien personnel et gère désormais seul la dernière gare autonome autoroutière de France. À tel point qu'il s'est longtemps demandé si ARS n'avait pas oublié son existence, ou tout simplement mis la clé sous la porte sans même le prévenir. Les salaires ont continué de tomber, et avec eux, les doutes se sont envolés. Aujourd'hui, Le travail de Cooper consiste à observer une myriade d'écrans vides, à remplir son rapport quotidien d'activité et appuyer sur un bouton matin et soir pour témoigner de sa présence. Des tâches inutiles qui pourraient tout aussi bien être remplacées par une puce électronique à moins de 15 centimes. Pourtant, Cooper est là, à la fenêtre de ce bloc de béton, le nez en l'air et la clope au bec, à regarder les étoiles qui bougent et qui vrombissent. Une fois sa cigarette terminée, et avant de retourner dans sa piole qui se situe à l'étage du bâtiment, il démarre un vieil émetteur-récepteur radio qu'il a remis en état lors de ses longues journées d'errance. Chaque soir, il émet sur les ondes le résumé inintéressant de sa journée, plus par intérêt thérapeutique que dans le but de trouver un interlocuteur. Du moins, jusqu'à ce soir. Chers aventuriers de la route terrestre, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission favorite, Un phare dans la nuit. Cooper au micro. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir la visite inopinée d'un invité de marque. Vous l'avez réclamé, j'ai nommé Gaspard le Cafard. Vous avez bien entendu ? Notre cher Blatt, qui nous a tant diverti lors de sa dernière visite, nous a fait l'honneur de revenir nous voir dans cette humble demeure. Eh bien, figurez-vous que Gaspard a cette fois décidé de grimper le mont Everest, ou plutôt le mont Bureau. En effet, dans la recherche d'une petite miette à grappiller, notre ami s'est aventuré aux confins de son territoire, repoussant toujours plus ses limites de cancrelat. Après une ascension hasardeuse mais toutefois rapide du pied de table nord-ouest, un versant réputé pour sa difficulté, Gaspard a par la suite traversé le plateau désertique de Saint-Cooper afin de rejoindre le tant convoité festin. Quelle ne fut pas sa surprise de tomber non pas sur un simple reste de repas, mais bel et bien sur un demi-sandwich colossal. Vlatipak, je le vois découper en moins de 30 secondes un morceau 5 fois plus gros que son corps et l'embarquer sur sa frêle carcasse. Direction, le trou dans le mur qui lui sert de maison. Gaspard doit être en ce moment même en train de digérer tranquillement les 6 pattes en l'air et l'exosquelette bien tendu. Voilà tout pour ce soir mes chers auditeurs, c'était Un phare dans la nuit, la seule émission radio sur ondes courtes du Val-de-Marne et peut-être bien de la France entière. Vous pouvez éteindre vos radios et dévorer la route en toute quiétude. Je reviens demain avec de nouvelles histoires croustillantes. Gaspard va-t-il à nouveau pointer le bout de son nez? Que vais-je manger pour dîner? Est-ce que la vie existe en dehors de la Terre? Vous en saurez peut-être plus dans le prochain épisode d'Un phare dans la nuit. Bonne soirée les aventuriers de la route terrestre, et à demain!
À demain, Cooper.
Quoi? Allô? Allô? Ici Cooper, est-ce que quelqu'un a parlé?
Tu hallucines, Cooper. Voilà que tu entends des voix maintenant. Bah oui, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. C'était sûr, à force de parler tout seul. À demain, Cooper. Ouais, c'est ça, ouais, à demain. À jamais, tu veux dire. Y a pas un pecno sur cette autoroute depuis au moins 10 ans? Et tu crois que quelqu'un va venir te parler? Va te coucher, Cooper. Ouais, c'est ça. Me coucher. C'est bien la seule chose qui me reste à faire.
Tu rêves pas, mon vieux. Je suis bien là. Enfin, je sais pas où tu te trouves, mais moi, en tout cas, je suis bien au chaud, sur mon siège en cuir, en train de rouler pied au plancher sur l'autoroute. Tu peux pas savoir comme ça fait du bien d'entendre une autre voix. C'est que je finissais par me sentir seul, dis donc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression.
Merde alors! Qu'est-ce que vous foutez là? Je pensais qu'il y avait plus personne sur les routes.
Tu peux me tutoyer, tu sais, hein. On ne se connaît pas, mais tout de même. Attends, je vais te faciliter la tâche. On reprend depuis le début. Matthews pour Cooper, Matthews pour Cooper. Je te reçois 5 sur 5. Bonjour, Cooper. Je m'appelle Matthews. Henry Matthews. J'ai 28 ans, je viens d'Alençon et je conduis actuellement une vieille Ford Fiesta de couleur noire agrémentée de taches de rouille. Ici, la circulation est fluide, pas d'embouteillage. Pas d'autres voitures tout court d'ailleurs. Les conditions météo sont optimales, même si on y voit foutrement que dalle dans la nuit noire. Over. C'est comme ça qu'on dit, non? Over.
Eh bien, bonjour Matthews, Henry Matthews. J'arrive pas à y croire, ça doit faire 20 ans que j'ai vu personne. Comment tu t'es retrouvé au volant d'une voiture?
C'est assez long à expliquer.
Oh, j'ai tout mon temps, tu sais.
Pour la faire courte, disons que j'avais besoin d'un nouveau départ. Alors j'ai pris un job dans le trou le plus paumé que j'ai pu trouver, tellement paumé que j'ai pas trouvé d'autre moyen pour y accéder. Mais je dois avouer que ces vieux engins ont du charme. Cette Ford Fiesta, c'était celle de mon père. Il n'a jamais voulu s'en séparer, même quand on lui a proposé de l'échanger contre une volante de dernière génération.
Attends une seconde. Si tu me parles via une CB, ça veut dire que t'es pas loin? Ces trucs-là ont une portée de 30 km maximum. T'es sûr quelle route, là?
Je sais pas trop. Comment je peux savoir ça?
Tu vois sur le côté? Il y a des petites bornes blanches et jaunes. Avec le temps, elles ont peut-être été recouvertes par la mousse, mais si t'arrives à en voir une, il y a une lettre et un chiffre. C'est l'identifiant de la route. Et sur la partie blanche, tu as aussi un nombre. C'est pour dire à quel kilomètre tu te trouves sur cette route.
Ah oui, je vois. Alors attends. La lettre c'est A et le nombre c'est 42. A42. Et en dessous, 87. Non, 187.
Eh hey, mais, c'est génial, c'est pas loin du tout. Tu pourras peut-être passer boire un... Dis-moi, Henri, c'est quoi ce job en question?
Pourquoi?
Comme ça, pour savoir?
Je sais pas trop, j'ai pas vraiment passé d'entretien. J'ai juste répondu à une annonce sur Internet. Attends, je te la retrouve. Voilà, métier calme, responsabilité limitée, faible revenu. En remplacement de l'actuel technicien, vous gérerez seul la plus grande et la seule gare de péage autoroutière de France. Vous effectuerez la surveillance et la maintenance des 54 portes de contrôle et ferez un rapport journalier de l'activité, très faible, voire inexistante, de la gare. Savoir chasser est un plus. Des animaux sauvages et potentiellement dangereux s'aventurent régulièrement sur la route. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'avoue que je ne sais pas très bien chasser, mais j'apprendrai. Cooper ? T'es encore là, Cooper ? Cooper !
En entendant ces mots, Cooper lâche son poste radio et saute de sa chaise, en remplacement de l'actuel technicien. Il n'y a pas de doute possible. L'actuel technicien, c'est lui. Et Matthews roulait à 130 km/h sur une autoroute sans âme pour prendre sa place. Certes, surveiller des écrans vides et appuyer sur un bouton deux fois par jour, c'est un job de merde. Mais c'est son job de merde. Son bloc de béton. Son cafard de compagnie. Et surtout, sa raison de vivre. Il n'y a rien d'autre dans la vie de Cooper que ces quelques éléments qui se répètent jour après jour. Alors il ouvre la porte grinçante du placard en métal qui renferme le matériel de patrouille et attrape le fusil électromagnétique. Cette arme, non létale, a pour but d'effrayer les ours de passage sans les blesser. Mais sa puissance est décuplée lorsqu'elle est utilisée sur des objets métalliques. Cooper sort en trombe de sa cabane en béton, suivi de près par Gaspard, le cafard, alerté par l'agitation soudaine de son compagnon. Il fait nuit noire dehors. Et seule la lumière de la cahute éclaire la deux fois quatre voies. Déterminé, le garde péage se positionne en amont des portes, en plein milieu de la route, sur le terre-plein central. Il lève son fusil d'un geste assuré. Sa lunette grossissante lui permet de voir à près de 5 km dans sa configuration maximale. Selon ses calculs, le kilomètre 187 se trouve à seulement 10 minutes en voiture de la gare de péage. Il devrait bientôt voir les deux phares de la Ford Fiesta briller dans l'obscurité totale. Le réticule est positionné. Les pieds de Cooper sont bien ancrés. Il est prêt. Une lueur apparaît sur le bord droit du champ de vision de la lunette. Mais Cooper ne bouge pas. Il attend le moment parfait. Le bruit du moteur 3 cylindres arrive soudainement à ses oreilles. Il n'en a pas entendu depuis si longtemps qu'il est presque ému par le rythme saccadé des pistons qui explosent à chaque impact. Le véhicule apparaît dans la lunette et se rapproche doucement du réticule. Lorsqu'il atteint la croix centrale, Cooper appuie sur la gâchette. Une fois que le calme est retombé sur la gare de péage de Sucy-en-Brie, Cooper retourne vers le bâtiment administratif. Il éteint le poste radio, redevenu muet, et s'assoit sur sa chaise à roulettes, face à son bureau. Il sort le carnet de rapport et l'ouvre à la date du jour. D'un geste lent et méthodique, il raye le 0, qui se trouve dans la catégorie « véhicule léger », et le remplace par un 1, avant d'arracher la page et de la jeter dans le poêle à bois. Il prend appui sur ses jambes et propulse sa chaise à roulettes vers l'autre côté de la pièce. Il ouvre la fenêtre guillotine et s'allume une clope. Il tire une taffe et l'expulse lentement, alors que son regard se dirige vers le ciel, parsemé de points lumineux, au mouvement linéaire et hypnotisant, Cooper sourit.
Merci Florian.
De rien Thomas.
Merci Vic. Non pas du tout.
De rien Vic.
Non, pas du tout. Merci ouais. Florian. Moi j'aimerais bien faire de la radio comme ça le soir aussi.
Mais tu peux. Je suis un peu nostalgique de ces radios pirates qu'on n'a jamais connues.
Ouais, et puis même le côté on parle comme ça. On dit pas c'est un podcast. Non, c'est un peu ce qu'on fait là, non. Sauf que c'est le côté direct. C'est
pas et qu'on n'a pas Gaspard le cafard.
Non.
Ouais. C'est un très bon animal. Fouille sous les meubles, on est dans un bon cœur.
Ouais, c'est pas fou. Non, c'était chouette, mais attends, pas sympa quoi.
Enfin, pas sympa, mais en même temps, c'est ça raison de vivre. Si on venait te piquer ta raison de vivre, tu ferais quoi toi? Si on venait te piquer ta raison de vivre et que t'avais un flingue dans ton placard.
Ouais, parce que j'ai quand même, je disais pareil dans ma tête, sympa Cooper, mais grand malade.
Ouais, il
a un temps, on tire pas sur les gens, tout ça. Non, on tire pas sur les gens pour ça quoi.
Mais je sais pas, si ça se trouve, il y a peut-être un malentendu. Tu vois, peut-être que...
Peut-être.
On sait jamais.
Mais il faut pas laisser la place mal en jeu.
Non, c'est vrai, mais bon, c'est un petit peu radical.
En tout cas, les gardiens de Béat, je les regardais différemment. Je savais pas qu'ils avaient des fusils d'assaut là, dans leur cahute.
Non, mais dans un futur moyennement proche, oui, mais certainement.
Bah, c'est sûr.
Parce que ça sera déserté, il y aura des animaux sauvages, etc.
Et vous, puis,
faire gaffe. C'est non létal.
Parlant du futur, moyennement proche, justement... Les gardiens de péage, justement, t'as l'impression que presque aujourd'hui, déjà, les péages, ils sont tous automatiques. Je suis même plus sûr que tu t'arrêtes au péage, enfin, ouais, pour les quelques péages que j'ai fait dernièrement.
Mais tu sais, t'as toujours des cahutes sur le côté là.
Oui,
il y a forcément quelqu'un dedans qui surveille.
Oui, il y a un problème.
Voilà. Ouais, qui surveille un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer quand même que le péage, c'est un des trucs qui va être. Enfin, c'est un peu comme des caisses de supermarché qui va être automatisé assez rapidement. Mmh. Et du coup, presque aujourd'hui, c'est presque déjà le passé, le côté un peu gardien de péage.
Bien sûr.
Et pourtant, toi, tu l'as mis dans le futur. Et je trouve ça cool. D'avoir ton monde finalement en quelques lignes, tu vois, ce gardien de péage dans le futur et voiture volante, en gros t'as dit ça, plus l'autre truc effectivement que je trouvais assez chouette, c'est les animaux, vu que c'est un peu abandonné, il faut savoir chasser, enfin, c'est quelques éléments là, j'ai bien aimé le monde, tu sais, tu l'imagines bien, et effectivement il se fait chier, comme au début, mais il veut garder son truc, parce que ok, il se fait chier, mais bon, c'est quand même son truc, et il y a une espèce de nostalgie un peu sympa de...
C'est ces futurs qui nous renvoient à la nostalgie, ça me rappelle cet illustrateur là qui a fait Tell From the Loop, il y a aussi un peu ce côté-là, ça me rappelle,
Simon,
il y a une musique de Fallout, c'est aussi un peu ça quand même, parce que c'est des futurs où, un peu des merdes, où on doit se débrouiller, avec, finalement, on fait des métiers du Moyen-Âge dans le futur, c'est toujours un peu particulier.
C'est un monstre, Fallout.
Pardon,
parce que tu as une musique de Fallout.
J'ai mis une musique de Fallout, et en fait, c'est un peu mes deux inspirations, j'ai essayé, à moindre mesure, en toute modestie, j'ai essayé de faire un mélange entre Firewatch et Fallout.
Firewatch, le jeu vidéo.
Le jeu vidéo, effectivement, aussi, où du coup, t'as un mec qui part s'exiler dans un métier de garde forestier parce qu'il a vécu quelques traumatismes avec sa femme, etc. Et qui rencontre une personne
qui fait garde forestier aussi,
mais
de l'autre côté.
Voilà, inaccessible. Et j'aimais bien cette idée. Et j'aimais bien l'idée de sauf que du coup, cette personne pouvait être remplacée, etc. Et j'aimais bien cette tension un peu qu'on rajoutait. Et du coup, cet univers de Fallout que j'aimais bien aussi.
Ouais. Et puis, moi, tu parles de Firewatch, je suis obligé de dire aux gens d'y jouer parce que c'est un des jeux que j'ai préféré de ma vie.
Bien sûr.
Fantastique jeu vidéo. Fantastique. Moi, je voulais parler d'un truc que tu fais, c'est que j'aime bien c'est un peu ce que tu disais Vic, Ricky, pardon.
Merci.
le côté technologie du passé dans le futur, moi j'ai appelé ça archéologie de la technologie. C'est un peu ce que tu fais là, c'est un peu ce qu'on peut faire parfois quand on tombe sur internet, sur un forum de 2002. Ça arrive parfois dans tes recherches, tu tombes sur un forum de 2002 et soudainement tu as l'impression d'avoir trouvé l'Atlantide. Tu remontes, tu vois les gens, ils se disaient bonjour en disant plop, ils parlaient pas de Bill Gates, ils disaient Bilou. Et tu vois, il y avait que des choses, t'as l'impression que c'est un monde étranger, t'as l'impression que c'était des millénaires auparavant. Je trouve ça hyper cool. Ou quand tu vas sur des vieux serveurs de jeux vidéo, etc. etc. Et quand on parlait dans l'intro d'espace liminal, je trouve que c'est un peu l'équivalent numérique de l'espace liminal, ces vieux forums, ces vieux. J'ai ressenti un peu d'espace liminal chez toi, parce que le mec est tout seul, on imagine, enfin, cette espèce d'ambiance nocturne, on imagine que c'est éclairé au néon, on a vraiment cette impression de.
Ce que j'aime bien par rapport à ça, par rapport à la nostalgie justement du type, c'est que le mec, bon, c'est moi qui joue, hein, parce qu'on n'a pas pu se payer d'acteurs, parce que forcément nos auditeurs sont trop radins pour ça. Mais,
il y en a certains qui nous envoient des biscuits.
C'est vrai. Mais du coup, le personnage a 64 ans. Donc imaginons dans un futur relativement. Moyennement proche, 64 ans, même quand tu remontes le temps, du coup ça veut dire que aujourd'hui il aurait peut-être je sais pas 5 ans, 6 ans, tu vois quoi. Donc c'est des technologies qu'il a pas vraiment connues, mais qu'il a connues par extension parce qu'il a connu des gens qui l'avaient
connu.
Tu parles
de la voiture.
La voiture, la radio, c'est comme les radios pirates, tout
dans la vraie vie là, il y a un gars encore à Paris, je sais pas où, qui gère le télégramme. Il y a encore un truc de télégramme qui existe, un seul.
Et il y a un crieur de journaux aussi. Hein.
Ah ouais,
ouais. Putain, c'est ouf.
Et ouais, parce que le télégramme, je crois que c'est pour justement l'Elysée.
Il y a encore des raisons administratives à l'usage du télégramme.
Comme ça. Il y a genre, un mec, il a genre, moi je suis responsable de télégramme sur son profil LinkedIn.
Trop bien.
Je suis un peu à l'affût des nouvelles technologies. Et puis j'imagine, alors créateur de journal, il est où? Il est à Paris?
Ouais, il est à Paris, il est dans le quartier latin.
Ah, mais il est là, il fait ça pour les touristes.
Non, je sais pas trop.
Il crée en chinois.
Chinois. Je sais pas bien, mais ouais, apparemment. Non, mais c'est très cool.
Ouais.
Cet univers, ce côté mélancolique, ce côté espace liminal.
Tout à fait. Très très cool. Et moi j'ai une dernière chose à dire.
Vas-y,
après,
moi j'ai deux mini questions après.
Voilà, moi je voulais juste noter que Aurora, c'est certainement l'entreprise
que tu utilises le plus.
Non, mais pas que lui. Non, même je crois que toi tu utilisais Aurora aussi une fois. T'es sûr que non?
Toi peut-être.
Ah, peut-être que moi aussi. Ouais.
Mais Florian, je pense que c'était pas la première.
Aurora, c'est revenu souvent. Genre,
c'est mon méga corps, pas moi. qui traverse mes chroniques. Et j'ai pas choisi, je voulais ça depuis le début d'Alien et les garçons, avoir une sorte de mégacorp qui revient, etc., mais dont je change un peu le nom et compagnie. Et j'ai pas choisi le meilleur parce que Aurora, déjà, je trouve que c'est maintenant avec du recul, c'est pas le meilleur nom qu'on aurait pu donner à un mégacorp. Et en plus, ça, c'est chiant à dire.
Aurora. Mais je suis presque sûr que je l'ai vu dans. On l'a vu dans certains trucs de SF, c'est presque sûr. Je sais plus où, mais bon, peu importe.
Mais l'avantage, c'est que c'est neutre.
Il y a des trucs comme ça.
Ouais, je me demandais, genre, Devs, la série Devs, je me demande s'il n'y a pas un truc Aurora dedans. Je sais pas, enfin, pour moi, ça évoque tout un truc déjà. Enfin, effectivement, c'est déjà porteur de sens SF, donc c'est pas déconnant.
Mais t'as un côté un peu entre, effectivement, Megacorp, qui te fait le monde est beau, tout le monde va bien, etc., et en fait, qui est diabolique, quoi.
Ouais, bah, comme chez nous, Apple. Une petite pomme croquée, c'est mignon les pommes. Ouais. Voilà, j'ai fait une grimace pour les auditeurs qui ont que le télétexte.
Tu avais
des questions, Vic.
Oui, alors moi j'avais des questions. J'avais pourquoi le Val-de-Marne, et t'es sûr que c'est blanc et jaune les bandes sur les aires d'autoroute?
Alors, attends, je pense que sur le bord des
c'est voies pas blanc et rouge.
Il y a pas de. Oui, je pense que c'est blanc et rouge, et je pense que les bornes elles sont extrêmement rares. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le folklore,
c'était pas mal.
Et pourquoi le Val-de-Marne? Parce que Sucy-en-Brie, c'est quand même cool,
Sucy-en-Brie. Non, mais c'est parce qu'en
fait... Est-ce que c'est là où tu passes régulièrement, non, c'est pas ça?
Non, j'y suis passé récemment et j'ai trouvé ça très cool comme nom de patelin. C'est pas un patelin, je crois qu'il y a genre 50 000 habitants.
50 000.
J'en sais rien, en tout cas, il y a du monde, quoi. Ouais. Et Sucy-en-Brie, je trouvais ça cool. Il y a zéro autoroute, il n'y a pas de gare autoroutière, mais dans le futur, pourquoi pas?
Ah, d'accord, donc c'était juste le nom de la ville. Ouais. Parce que justement, moi, ma question portait sur est-ce que du coup, t'es allé dans Google, taper péage et t'as regardé un peu les péages pour choisir le lieu de ton.
Non, j'ai fait, tiens, un nom de patelin qui pourrait bien coller, j'ai pensé à Sucy-en-Brie. Et après, j'ai tapé Sucy-en-Brie dans Google, voir s'il y avait une autoroute. Il n'y en avait pas, j'ai fait
consulte. Le premier truc qui pense, c'est Sucy-en-Brie, quoi. Consulte quelqu'un, c'est assez inquiétant.
Non, j'ai pensé à autre chose.
27 000 habitants, on dit bonjour à tous les suceurs en brie, je sais pas quel gentil.
Les suceurs
de brie. Voix,
des suceurs de fromage, on les salue. Attends, j'espère qu'on n'a pas eu tort de. Ah, les suciens. Les suciens.
Les suciens, c'est pas simple. Franchement, c'est encore pire que Aurore.
Les suciens, on dirait un schisme orthodoxe de... Je sais, franchement. Ouais, bon, bref.
Ou alors. Big up à tous les suciens. Ouais, bref.
On dirait que t'as un cheveu sur la langue.
Ouais, c'est vrai. Pas méga crédible. Est-ce qu'on a terminé, les amis?
Eh ben, écoute,
on va poursuivre avec ma chronique.
C'est le bordel au bunker.
Ouais, c'est les cadeaux. C'est Noël, on a déballé, il y en a partout. Poursuivons tout de suite avec ma chronique, celle qui se passe dans un monde blockbuster.
Blockbuster, ah, je suis pressé.
L'appel de la jungle.
Ces points de vue saisissants sur une nature pure que l'on est tenté de qualifier de sacrée, son ciel bleu absolu, son étendue infinie, la route entre San José et Puerto Vidal est propice à l'émerveillement à chacun de ses tronçons. Des arbres aux feuilles protéiformes se pressent les uns aux autres et viennent étreindre la ligne de bitume sur laquelle roule le camion de livraison. Au volant, Paco, qui s'enchante d'un tel paysage. Autour de lui, la jungle habite la terre de la manière la plus parfaite qu'il soit. C'est comme si elle avait toujours été là et qu'elle y resterait à jamais. Paco, lui, n'est que de passage. Bientôt, il retournera dans son trois pièces misérable de banlieue et retrouvera sa vie qui est aussi grise que cette jungle est verte. Lorsqu'il lève les yeux, les traits banals de son visage qu'il aperçoit dans le rétroviseur lui rappellent qu'il n'est qu'une rature face à la beauté solennelle du lieu. Paco n'appartient pas à la jungle. Il appartient à un autre monde. Un monde dans lequel il doit se lever à 4h du matin pour le salaire de misère que lui donne son gringo de patron. Celui-là même qui est incapable de retenir son prénom et qui l'appelle parfois Chucho, Thiago ou Pablo, mais jamais Paco. Jamais. Paco est chauffeur routier. C'est un métier parfois pénible et difficile. Il passe ses journées et quelquefois ses nuits loin de sa famille, au Costa Rica le plus souvent, mais aussi à l'étranger. Quoique le métier n'est pas difficile à cause de cet éloignement que Paco considère plutôt comme une bénédiction. On ne peut pas dire qu'il se sente bien chez lui. Après avoir englouti des centaines de kilomètres de route, quand Paco rentre, c'est pour y retrouver l'indifférence de sa femme et le mépris de son fils. Sa femme, Daniela, ne prend même plus la peine de le détester comme elle le faisait jusqu'à présent. Elle se contente de vivre sa propre vie typique d'une quadragénaire costaricaine. Entre tâches ménagères, telenovelas et coups de téléphone murmurés à sa sœur. Désormais, elle ignore tout simplement la présence ou l'absence de son mari qui lui faisait pourtant briller les yeux et accélérer le rythme cardiaque il y a encore une vingtaine d'années. Son fils, lui, le regarde avec dédain du haut de ses 14 ans. Il voit en son géniteur le roi des ratés, un boulet dont il a hérité et qu'il doit se traîner. Peu importe si, comme Paco aime le rappeler, il accumule les heures sup pour pouvoir payer à ce petit cabron ingrat tout ce qu'il désire, à commencer par son nouveau smartphone, qu'il ne quitte jamais des yeux. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Paco a toujours été au mieux un second rôle dans la vie des gens, au pire un figurant. Il n'a pas vraiment d'amis et personne ne tient à lui. S'il venait à disparaître, probablement qu'aucune larme ne serait versée. Et son souvenir subsisterait sans doute fort peu longtemps dans l'esprit de ses proches, entre guillemets. Il n'a en conséquence jamais vraiment été heureux, et jamais vraiment à sa place non plus. Voilà ce que c'est que la vie de Paco. Mais ce matin, les choses sont différentes. Paco est ébloui par la jungle qui l'entoure et qui l'appelle. Il ne veut plus se rendre chez les gringos pour faire sa livraison, il veut rester ici, parmi la nature grandiose. Kilomètre après kilomètre, le camion ralentit pour prolonger ce voyage magique. Puis enfin, il s'arrête au bord de la route, à la frontière entre bitume et végétation. Le bruit du moteur s'évanouit et le cœur de la forêt peut enfin s'exprimer. Et si c'était là qu'était sa vie, se dit Paco. Pourquoi ne dirait-il pas mierda à son emploi au parc, à sa famille et au monde entier pour devenir un fragment de cette jungle parfaite? Guidé par son cerveau reptilien, Paco déverrouille les portes de la semi-remorque du camion pour y pénétrer. Quelques minutes se passent, sans bruit, sans mouvement, comme si le paysage s'était fait peinture à l'huile. Paco ressort finalement les pupilles dilatées, les tempes battantes et les bras chargés d'œufs de toute taille. Sans se retourner, il s'enfonce dans l'ombre paisible de la jungle. Il marche ainsi des heures, suffisamment pour que ceux qui habitent le béton ne le retrouvent jamais. La chaleur est étouffante ici, alors il retire chacun de ses vêtements jusqu'à se retrouver totalement nu. Ainsi découvert, son corps bronzé semble parfaitement à sa place dans la palette de couleurs tropicales de son nouveau monde. Ce tissu coloré n'appartient pas à la jungle, son corps, oui. Non loin d'un ruisseau, Paco dépose délicatement les œufs dans l'humus de la forêt. Cette marche lui a ouvert l'appétit. Alors il attrape des feuilles par poignées entières et les avale. Le goût amer végétal lui donne quelques haut-le-cœurs, mais peu importe. Il est désormais herbivore. Il est jungle et il se nourrira de jungle. À l'aide de ses pattes et de ses griffes, il confectionne un nid de brindilles et de mousse pour ses œufs, pour ses bébés chéris. Il sera pour eux la mère que personne n'a jamais voulu voir en lui. Une maman tricératops aimante et protectrice. Il leur transmettra l'amour et l'énergie que lui donne la jungle qui est désormais une amie. Délicatement, Paco installe son corps gras sur le nid pour couver ses petits. Et déjà, l'un des œufs remue sous les écailles de leur mère. Paco s'émeut. Son premier enfant est en train de percer sa coquille de sa maladroite petite patte rose. Il est ivre de bonheur. Il aide le minuscule reptile à s'extraire. Enfin, il le porte contre son sein poilu pour qu'il sente son cœur battre d'amour pour lui.
Il a craqué, Paco.
Il a craqué, bah il a, c'est ce que je dis, c'est la tentation de disparaître, et Paco a craqué.
Il a craqué. Ça va pas bien, là.
Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire dans quel univers ça se trouve?
Bah, tout quand même.
Non, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai cru au début l'avoir trouvé très rapidement, parce qu'en fait, il y a un mot-clé que tu dis à peu près 20 fois dans la chronique, donc au bout d'un moment, on se doute que...
C'est quoi, du coup?
C'est jungle.
Oui, mais pas que.
Et tu pensais qu'on se passait dans Georges de la jungle.
Non, au début, je sais pas pourquoi, la première fois Predator. Que tu dis jungle... Ouais, exactement, je me suis dit Predator.
J'ai jamais vu Predator.
J'ai pensé à Avatar.
J'ai jamais vu Avatar.
J'ai aussi un moment pensé à Avatar, mais je me suis dit, ouais, c'est bizarre.
C'est bizarre quand même, sur Terre et tout, tu vois.
Et non, oui.
Mais c'est Costa Rica qui m'a mis le deuxième indice à l'oreille.
Ça se passe là-bas.
Mais en tout cas, c'était quoi les autres mots un peu clés?
Reptilien.
Parce qu'à un moment donné, ça je l'ai laissé pour la vanne. Il parle de son cerveau reptilien, il le pousse à s'arrêter. Et je me suis dit, allez, je la mets là,
c'est cadeau. Quoi.
Cerveau reptilien, allez, on met ça comme ça. Mais c'est cerveau. Tu vois. Ouais. Après, il sort avec des œufs. Là, tu peux avoir un doute.
Et puis
il y a la musique qui part. Et, voilà. Et c'est la musique. C'est tout. Je lâche jamais le mot Jurassic Park parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas compris.
Non mais le parc aussi. Je parle du parc.
Ouais, mais juste le parc.
Non mais c'était un peu l'indice.
La première version, je disais Jurassic Park et tout, et c'est pour ça que j'ai tout annulé, j'ai tout réécrit en mettant juste, on révèle à la fin, c'est plus fun quoi.
Ouais, j'aime bien les chroniques jeux comme ça.
Mais
il en faut d'autres.
Cool, hein, c'est cool.
C'est fun les chroniques jeux, et même au-delà de ça, à écrire, je me demande si on n'a pas intérêt à se faire une spéciale fanfiction où chacun on choisit un univers et on écrit, on essaie de deviner, parce que franchement, c'est fun à écrire. Je pense que c'est fun à écouter. Moi, je propose qu'on fasse un spécial fanfiction à l'occasion. Vrai.
Et en plus, t'as pas de monde à créer, du coup, il faut juste que tu.
Tu choisis un truc, bah après tu vois l'histoire est tout à fait parce qu'on voit Paco, il n'existe pas dans le film.
Non,
c'est un figurant quoi qui est là. Ouais.
Oui. D'ailleurs, ça sera la vignette de l'épisode, ça sera un screenshot de Jurassic Park et on dirait que c'est lui, Paco.
Mais que tu. Non, bien sûr, mais je veux dire, le monde est déjà créé, le contexte est déjà là en fait, c'est ça. Et ça, des fois, quand il faut l'expliquer, à part quand tu sais le faire comme Florian, qui explique très bien les contextes des mondes, c'est pas mal.
Ça fait trop de travail. Voilà, donc c'était Jurassic Park, j'ai respecté le contrainte, c'était un routier qui transportait des œufs. Alors en vrai, dans la vraie vie, je pense que ça se passerait pas comme ça. Hein. Parce que genre, on prend un pauvre mec sous-payé pour transporter des œufs dinosaures, je suis pas sûr moi, mais après. Surtout que dans le film, on les voit faire grandir les œufs dans le parc. Mais bon, j'ai pris mes libertés.
Après, je me suis dit, tu vois, qu'il avait hacké le truc, tu vois. Il avait tout plaqué, il s'est dit, ok, je me garde sur le bas-côté, hop, maintenant je me barre et tout avec mes œufs et basta, tu vois, quoi.
Ah, ça, c'est ce qu'il fait.
Oui, mais je veux dire, il a quel système, on est d'accord. Il va pas livrer vraiment, etc.
Ah non, il ne livre pas, il décide de grandir avec eux. Il s'identifie comme un triceratops à la fin.
C'est-à-dire que... ce que dit Super Thomas, c'est que normalement, les œufs, ils sont dans le parc. Ils ne vont pas les chercher ou ils ne les transportent pas.
C'est surtout ça. J'ai un peu triché, mais ce n'est pas grave.
Non, mais c'est surtout qu'il pète un câble, Paco. Enfin, je veux dire, c'est...
Ouais, mais c'est de ça dont ça parle. Moi, j'appelle ça, je vais faire un petit peu de philosophie parce que ça fait longtemps.
Vas-y.
J'appelle ça la tentation du thonier. La tentation du thonier, c'est de se dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, il y aura toujours, quelque part, en France ou dans le monde, un thonier qui serait prêt à t'accepter pour un salaire de misère où tu pars dedans, donc un bateau pêcheur de thon, hein, pour 6 mois ou je sais pas quoi, tu pars en mission, t'es payé que dalle, mais t'es logé, machin, personne te pose de questions.
Ouais, c'est pas exactement la même chose.
La tentation du...
C'est pas juste tout plaqué, hein, c'est genre, c'est tout plaqué et péter un...
Péter
du rythme, tu vois, quoi.
Il a craqué en plus, mais c'est quand même la tentation du thonier pour moi, c'est de se dire, ok, il existe cette possibilité.
C'est
la jungle, son thonier à lui, c'est la jungle.
Pour reprendre ton exemple du thonier, c'est comme si tu te faisais embaucher sur un thonier et que tu devenais poisson, tu vois. Ça, c'est chelou. Et tu te jettes dans la fosse, tu vois, avec un hameçon dans la bouche.
Qu'est-ce qu'il fait le nouveau là? Je sais pas.
Chelou.
Non, mais lui, en fait, il avait aussi tout ce background avec sa famille où ça se passe pas bien, il se sent pas aimé et tout, et du coup, il décide de devenir une maman triceratops et de se dire, bah eux au moins ils vont comprendre et ils vont m'aimer et tout. Alors on imagine qu'il se fait bouffer très très vite, hein, comme Grizzly Man.
Le triceratops, c'est herbivore.
Ouais. Il va se faire bouffer.
Ah oui,
dans le loup, il y a forcément un herbivore, un carnivore, il va se faire bouffer, c'est sûr.
Ouais, c'est clair.
Il va s'intoxiquer à bouffer des feuilles à la con.
Ouais, ou quand les petits triceratops, ils têtent pas les. C'est pas des mammifères.
Ça, c'est pas des mammifères.
Mais bon.
Je l'avais écrit ça au début, je me suis dit que j'allais passer pour un con. Parce qu'à la base, il le met sur son cœur, j'avais écrit plusieurs livres. Et le dino, il le faisait téter son sein poilu de Paco, là, avec son petit dinosaure qui tète son sein, je trouvais ça très con. On allait dire, non mais excuse-moi, c'est des reptiles. Les reptiles, c'est la famille, il y a des machins. Donc bref, j'ai écourté le truc et voilà.
Je pense que t'as bien fait.
C'est terminé. Et voilà, moi je voulais dire une dernière chose. Je sais pas, vous avez peut-être pas question. Mais je suis hyper. Moi je te dis, je m'identifie comme un triceratops.
J'avais pas une question, mais j'avais une remarque. Ou à un moment, tu mets aussi en sous-texte que Paco, il en a marre de toujours jouer les seconds rôles et les figurants. J'avais bien aimé ce passage.
Ben, il était le rôle. Oui.
Du coup.
Ouais, mais c'est méta.
Ouais, c'était méta, bravo.
Il est fort.
Ouais, il est très fort.
Il est très fort. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste parler de ce qu'il y a, à mon sens, de mieux dans la chronique, parce que je suis quelqu'un de humble, en tout cas là maintenant, pendant 30 secondes, c'est la chanson de Jurassic Park. Parce que quelle autre chanson, en tout cas moi personnellement, quelle autre chanson peut autant me rappeler, ou quel autre film même, peut autant me rappeler mon enfance. Ouais. Cette chanson-là, je la mets instantanément,
C'est John Williams, non?
C'est John Williams.
John Williams, quand même, à chaque fois, il a ça de fort.
Ricky Williams.
J'allais dire, putain.
Il a ça de fort quand même, c'est que dès les premières notes, il arrive à te remémorer des choses. Tu vois, quoi.
Je pense qu'il y a certains. Enfin, il est déjà le mec. Enfin, je vais taper sur John Williams, le mec est vraiment tiré sur l'ambulance, quoi. Parce que le mec, il a tout fait, quoi. Mais on se rappelle aussi que des grands films, parce que le mec, il a fait aussi Indiana Jones, machin, Star Wars et tout ça. Je pense qu'il y en a fait certains qu'on a un peu oubliés, donc le mec est trop fort. Mais au-delà de ça, moi, au-delà de son talent, c'est un film que j'ai vu, je pense, 100 fois. Quand j'étais gamin, je le voyais deux fois par semaine. Mm. J'avais le VHS.
T'allais pas à l'école?
Non, j'allais pas à l'école. Non. J'y vais dans la jungle, au Costa Rica. Ouais. Ouais. Mais en fait, Paco, c'est le mec de 14 ans, c'est moi. Ouais. Paco, c'est ma mère très sérieuse. Il n'y a aucun sens ce qu'on dit.
C'est pas grave.
Bref, voilà, Jurassic Park, beaucoup d'amour pour Jurassic Park. Du coup, j'ai adoré écrire cette chronique. C'était aussi, ça n'a pas de sens. Il y a pas d'histoire. C'est complètement con. Enfin, c'est un peu logique parce que le mec, il est pas bien de sa vie, donc il se barre et tout.
Ça pourrait effectivement
mais juste être
un concept de podcast carrément.
De quoi
de fanfiction comme ça.
Ouais,
de se faire passer des histoires dans les mondes de toutes plein de choses. Hein.
Mais moi, je vous propose aussi, on va y réfléchir parce que là, on s'engage pas devant les auditeurs parce que de toute façon, on est nul pour ça. Mais une spéciale fanfiction, ça peut être fun. Et chacun choisit un univers et on fait quoi. Advienne que pourra. On verra. Vous verrez que c'est plus simple à écrire, du coup, je trouve, moi. Voilà. Je vous propose, si vous êtes d'accord, chers amis, de quitter le Costa Rica pour aller...
À différents endroits.
À différents endroits.
Mais de France. Si, on va aller à Draguignan, pardon.
On va aller à Draguignan. Tu nous fais rêver.
Ah, c'est bien ça.
Après Sucy-en-Brie, Draguignan. Et le Tour de France.
Ah, là,
quel plaisir. Absolument.
Mister Ailes Crime.
Nous avons remonté la trace de Mr. Ice Cream jusqu'au lundi 13 juillet 1998 sur le parking principal du camping de la Rose des Sables, près de Draguignan. La veille du 13 juillet 1998, l'équipe de France de football remporte la Coupe du Monde au Stade de France devant des millions de Français. L'allégresse populaire qui suit cet événement donne lieu à des milliers de scènes d'effervescence, documentées à travers le pays. En conséquence, on retrouve aujourd'hui un nombre anormalement élevé de photographies prises durant la semaine du 13 juillet 1998. Sur les 367 clichés réalisés par des photographes amateurs durant cette semaine au camping de la Rose des Sables, Mr. Ice Cream apparaît sur 34 d'entre eux. Sous différents angles. Sur 13 de ces 34 clichés, on peut distinguer Mr. Ice Cream en arrière-plan, sans pour autant pouvoir en discerner les détails précis. Sur 5 clichés, il est possible d'identifier Mr. Ice Cream à côté des vacanciers, alors qu'ils sont en train de fêter la victoire de l'équipe de France, sans prêter attention à lui. Sur 11 des clichés, on peut apercevoir une silhouette à l'intérieur de Mr. Ice Cream. La silhouette est cependant trop sombre ou trop floue pour être identifiable. La silhouette est de forme humanoïde. Elle mesure et son poids a été estimé à. Sur les photographies où la silhouette est présente, deux points sur la partie supérieure de son visage semblent avoir été anormalement surexposés, comme si deux sources lumineuses puissantes et extrêmement localisées avaient été dirigées en direction des différents photographes. Sur ces 11 clichés, la silhouette se présente toujours avec le même angle, alors que les angles des photographes, et donc de Mr. Ice Cream, varient à chaque fois. Enfin, les 5 derniers clichés ont été réalisés par le même photographe à quelques secondes d'intervalle. Ils ont été pris depuis la face arrière de Mr. Ice Cream. Sur le premier, on aperçoit une jeune fille de profil, âgée d'environ, en train de fixer ce qui se trouve à l'emplacement de la silhouette identifiée sur les clichés cités auparavant, c'est-à-dire l'intérieur de Mr. Ice Cream. Sur le second et le troisième cliché, la jeune fille contourne Mr. Ice Cream vers l'arrière, en marchant face à nous. Le regard de la jeune fille paraît fixe, et l'enchaînement rapide des clichés semble caractériser une démarche anormalement rigide et non naturelle. Sur le quatrième cliché, la porte arrière de Mr. Ice Cream est maintenant ouverte, devant la jeune fille qui fixe l'intérieur. La partie interne de Mr. Ice Cream est totalement noire. Des expertises photochimiques, centrées sur les ISO et les radiations lumineuses de cette photographie, ont confirmé récemment que cette partie noire de la photographie n'est pas due à une sous-exposition ou à une aberration chromatique, mais bien la conséquence, comme nous l'avions soupçonné, d'une zone localisée de la pellicule qui ne se serait ni révélée ni fixée lors du développement. Le cinquième et dernier cliché a été réalisé lorsque l'appareil photo, lâché par celle que nous pensons être la mère de la jeune fille, a touché le sol au moment de l'impact. Sur ce cliché, on aperçoit la femme photographe en train de courir vers la jeune fille pendant que celle-ci monte et disparaît à l'intérieur de Mr. Ice Cream. La femme a les bras en l'air pour tenter d'attirer l'attention de la jeune fille, mais celle-ci ne la regarde pas. Sur le cliché, elle est déjà à moitié engloutie par l'obscurité. Ces 34 clichés sont les premières preuves de l'existence de Mr. Ice Cream. Durant les 24 années qui nous séparent d'elle, des centaines d'autres preuves et témoignages, photos argentiques ou numériques, mais également audio, vidéo et textuels, ont été répertoriés par nos services. Certains témoignages présentent des éléments permettant d'identifier que Mr. Ice Cream est un... Tous ces éléments sont classifiés. Sur les différents éléments de preuve en notre possession, Mr. Ice Cream a été enregistré sous les immatriculations suivantes. AR-765-BN-837-AG-31-65-43-FA-71 1-2-3-PLA-74 RG-252-TN-78-17-VY-60 1-2-3-4-AA-12 614-BGE-67 et enfin et Mr. Ice Cream est un utilitaire léger Citroën type H de type fourgon automobile de 2,25 tonnes de PTAC produit en 1954. Il semble être mécaniquement normal, sauf dans le témoignage de datant du 4 septembre 2006. Ce jour-là, prétend s'être fait doubler sur l'autoroute au niveau du kilomètre en direction de par Mr. Ice Cream qui aurait, selon le témoignage de roulé à une vitesse estimée d'au moins 400 km/h, peut-être plus, fin de citation. Le témoin prétend avoir reconnu un vieux camion de glace dont la description, la couleur grise et les inscriptions Mr. Ice Cream et correspondent aux éléments en notre possession. Plusieurs témoins ont signalé des disparitions de proches dans les zones au sein desquelles la présence de Mr. Ice Cream a été confirmée par la suite. Les disparus sont tous âgés d'environ... Les disparitions s'élèvent aujourd'hui à... personnes. Plusieurs témoins ont confirmé que Mr. Ice Cream semblait ne pas avoir de chauffeur lorsqu'il se déplaçait. Plusieurs témoins ont confirmé la présence d'une silhouette sombre et humanoïde à l'intérieur de Mr. Ice Cream. Le 2019, une femme a été retrouvée inconsciente par un témoin ayant signalé la proximité d'un Citroën type H de couleur grise. La femme n'a pas pu être identifiée par nos services et présente des symptômes avancés de et de les interrogatoires et expertises menées sur la femme n'ont pas pu donner lieu à des conclusions susceptibles d'être développées dans ce rapport. Le 13 janvier 2011, une vidéo réalisée par une caméra de surveillance de la station service de dans le département de montre Mr. Ice Cream s'arrêter devant la pompe numéro 3 pendant 24 minutes. Le véhicule ne bouge pas pendant les 14 premières minutes. À la 15e minute, Le conducteur de la voiture située derrière Mr. Ice Cream sort de son véhicule, visiblement énervé par la situation. Il s'approche du fourgon et s'arrête au niveau de la porte conducteur. Il fixe l'intérieur de Mr. Ice Cream pendant 2 minutes et 46 secondes, avant de se diriger de manière mécanique vers la porte arrière de Mr. Ice Cream. À la 21e minute de la vidéo, la porte arrière s'ouvre. La vidéo présente des glitches importants localisés à l'intérieur de Mr. Ice Cream. Le conducteur de la voiture monte dans Mr. Ice Cream avant que les portes ne se referment. À cet instant, le deux minutes plus tard, Mr. Ice Cream repart de la station service. La suite de la vidéo montre un membre du personnel de la station constater la disparition du conducteur, puis déplacer son véhicule. Mr. Ice Cream a été classé à haut risque. Les preuves de son existence ont été placées sous scellé sur le site de au niveau du hangar 8. À ce jour, nous recherchons toujours Mr. Ice Cream. À ce jour, nous pensons que Mr. Ice Cream est un véhicule de type
merci Vic, mais en même temps je te remercie pas.
Ricky.
Merci Ricky.
De rien dim.
quel infâme surnom. Je te remercie pas parce qu'il n'y a pas vraiment. Du coup, on n'a pas la révélation du mystère.
Non,
c'est ça que j'aime
bien.
Il faut
pas tout savoir.
On est d'accord, du coup, c'est basé un petit peu sur la forme du coup du truc dont j'ai oublié le nom.
Fondation SCP.
Fondation SCP.
Exactement.
Donc c'est vraiment un rapport de la Fondation SCP.
Ouais, alors je m'étais noté des trucs. Ouais. À la base, c'est ce que je voulais faire. En fait, à la base, tu sais quoi? C'était un contraint. Je m'étais dit, tiens, ce serait marrant de faire un contraint où je dis à écrire sous la forme d'un rapport de. En fait, c'est super compliqué.
Ouais, c'est
tout
très
un
très
vocabulaire.
Formel, très,
J'ai essayé d'être très formel, pas très écrit, justement, le moins écrit possible, le plus neutre. Mais j'ai pas suivi vraiment. Ça. C'est, en tout cas, c'est très inspiré. Il y a même un camion dedans de glace aussi qui fait pas exactement la même chose, mais bon, bref. C'est très très inspiré par ça. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la Fondation SCP.
Mais tu l'as adapté pour le podcast.
Ouais, on va c'est un peu adapté.
Mais d'ailleurs, il y a un truc à faire. Enfin, on l'a déjà dit, il faudrait faire un spécial Fondation SCP. On fait beaucoup de spéciaux en ce moment.
Ouais, c'est un peu. Ou Creepypasta, tu vois. Je sais pas s'il faut.
C'est précisément les deux trucs que j'ai notés. J'ai noté que ça ressemblait à une creepypasta. Ouais. Et après, je dis non, ça ressemble plus qu'à une creepypasta. Ça ressemble à une entrée de la Fondation SCP.
Oui.
Pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est, on l'a déjà expliqué. On va pas. Vous googlez la Fondation SCP, vous allez très vite comprendre.
C'est un peu des pour le faire rapidement, ceux qui n'ont pas Google sous la main, c'est un peu une creepypasta, donc en gros une légende urbaine, sauf qu'elles sont inventées. Et ça a commencé en 2007, du coup j'ai revérifié. Et c'est le principe de la Fondation SCP, c'est un pool de plein de gens issus de tous les pays du monde, bon, ça a dû commencer aux États-Unis j'imagine, qui répertorie des SCP, des objets SCP, qui sont justement ces objets un petit peu étranges, comme là un camion de glace qui fait disparaître les gens. Il y a plein d'autres trucs, c'est très très créatif, ça va dans tous les sens, il y en a des milliers. Et la forme.
Et puis c'est extrêmement méta, parce que du coup, les gens qui écrivent respectent des rangs qui doivent se faire valider par d'autres rangs, etc.
Oui, oui.
T'as des gens qui écrivent l'univers.
Et puis on révèle jamais que c'est de la fiction, surtout quand tu vas sur leur site, t'as l'impression que c'est un vrai site d'une fondation qui dit nous, notre job, c'est de localiser les anomalies. Et on les isole pour protéger le monde de ces choses terribles qui arrivent.
Et du coup, la forme d'écriture de ces rapports des gens qui isolent les objets SCP, c'est des procédures. Ils appellent ça les procédures de confinement spéciales. Et donc, t'as rôle, comment on confine l'objet, voilà ce qu'il faut faire, pas faire, voilà comment ça s'est passé quand on l'a rencontré pour la première fois, etc. Mais dans un style très neutre, très clinique, très administratif.
Tout à fait.
Qui se prête assez peu au podcast, donc du coup, tu l'as adapté, etc. C'est pour ça que j'ai dû faire des phrases un petit peu plus construites, etc.
Ouais, mais elles sont pas très construites, les phrases. C'est terrible. Mais bon, c'était intéressant.
Et du coup, on ne saura jamais quel est le. Tu le sais, toi, ou t'es pas obligé de nous le dire? Tu peux dire, moi, je le sais et je vous le dirai pas.
Alors, c'est drôle parce que derrière certains bips, il y a des vraies choses.
Ah. C'est ça que je voulais savoir, moi.
Derrière certains bips, il y a des vraies choses. Et derrière les autres bips, sur certains, je vous dis pas. Des fois, je fais. Je le savais, donc j'allais mettre des bips aux endroits où j'ai mis des bips. Et des fois, je disais, je sais plus, par exemple, en direction de, c'est en direction de Bourg-Palette. Par exemple, il y a des trucs. Il y a un des, le personnage qui, un moment, dit qu'il a croisé le véhicule et qu'il est sûr qu'il roule au moins 400 km/h. Il porte un de vos noms, mais avec le nom de famille aussi.
Ah.
Donc je le révèle pas là. Ah, mais donc,
au point d'en est par rapport à l'épisode précédent, de toute façon,
Non, mais ça va, c'est une fois.
Il porte le nom. Il porte un de vos noms. Et pour d'autres parties. Et notamment la partie, à un moment à la fin, il y a une partie longue. Là, c'est et en fait, machin, on a identifié que truc, enfin que Mister Ice Cream est un. Et là, c'est pas un truc réel, c'est plutôt éteint. Et là, bidule truc machin. Là, je vais faire un bip super long, comme ça ils sauront pas et ils me diront putain l'enfoiré. C'est ça en fait.
Ouais, c'est encore plus, effectivement, c'est encore plus faisant. Je dis, oh, mais il y a vraiment un truc qui est en train d'être dit, mais c'est pas juste.
Oui, c'est pour ça. Que, exactement. J'avais prévu la taille des bips aussi.
Et ouais, et ça marche très bien. Et ce qui marche bien en fait aussi dans ces trucs de la fondation SCP qui marche là, c'est de prendre un objet souvent un peu du quotidien, un peu normal.
Oui,
là, c'est
et
qui est un peu du coup inquiétant parce qu'évidemment, tu dis que c'est un ovni qui est tombé, enfin un ovni, une soucoupe volante ou quelque chose qui est tombé du ciel. Bon bah, ok, c'est attendu. Là, c'est un camion de glace, un truc lié à l'enfance qu'on connaît tous, machin, et il se passe des choses étranges autour. Et il y a plein de gens qui ont évoqué d'avoir vu des choses, et c'est ça qui marche très bien, et c'est ça qu'ils font dans la Fondation SCP.
Et dans la Fondation SCP, donc tu as des objets comme ça, il y a ce camion-là, il y a des jouets parfois, un jouet, tu vois, c'est genre un petit camion aussi, en l'occurrence, c'est aussi un camion, mais c'est un hasard, qui pèse 900 kilos.
Je l'ai lu celui-ci.
Et c'est
incroyable ça.
Il y a aussi des. Il n'y a pas que des objets, il y a des trucs super. Il y a une ville.
Mais il y a des lieux,
c'est un quartier même. C'est un quartier dans lequel il y a toujours 40 cm de neige, alors qu'il n'y a jamais de neige dans ce pays-là, mais par contre, dans ce quartier-là, il y a ça, et les habitants sont comme ci, comme ça, etc. Enfin, c'est vraiment très créatif.
C'est assez brillant. C'est assez brillant. Et pour le coup, il y en a des centaines, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a, c'est écrit depuis des années. Il y en a plein en français, des traduites et des écrites en français de base dans le texte.
Ouais.
Et c'est vraiment très intéressant. Et si vous avez aimé la chronique de Vix, qui ne fait aucun doute, je vous invite à aller voir. Le site de la Fondation SCP.
Tout à fait.
Bah, c'était très intéressant. J'ai pas d'autres choses à dire.
Non, il y a pas.
Mais c'était toutefois très très bien. On a eu 3 bonnes chroniques.
C'est vrai.
Est-ce qu'on va avoir un bon quiz?
Ah, franchement, je l'espère.
C'est vrai. Ah, il est content. Parce que d'habitude, t'es pas trop content de toi. T'es pas très content.
Non, je suis pas non plus. Tu vois,
finalement, c'est toujours très bien. Et donc là, t'es content. Est-ce que finalement, on va casser le plafond?
Mais parce que je pense que ça peut être un peu drôle. Mais les quiz, du coup, c'est toujours compliqué.
Ou alors t'as repris confiance en toi, peut-être.
Du coup, ça va être un épisode un peu de Un phare dans la nuit.
Non.
Non.
Non, non, non. Tu vas voir.
Ok, bah je vais voir alors.
On n'en dit pas plus, on va faire une petite virgule, on se fait un quiz et après on se donne le contrainte.
Ah oui, faut y réfléchir.
Et après, on se dit au revoir.
On se dit au revoir, on va se coucher, hein. Oh, il est tard là.
Virgule, chers amis.
C'est l'heure du quiz.
C'est l'heure du quiz. Et c'est Florian avec ses beaux cheveux jaunes.
Ses
beaux cheveux jaunes, c'est deux tentacules nasales.
Déjà, je tiens à dire que c'est Bob. Pour moi, ça vaut moins un. Ça vaut moins un.
C'est vrai.
Non, mais on est là comme ça.
Moi, j'ai pas trop adhéré au surnom.
Les mecs jouent pour les points.
J'ai pas trop adhéré au surnom.
Bah, ça se voit. Non, je vais vous faire un quiz. Et quoi de mieux?
Premier de l'année, hein.
Premier de l'année, bah, premier épisode de l'année, premier quiz de l'année, premier quiz de la... Non, pas de la décennie, non, c'est juste de l'année.
Non, pas du tout.
Premier
quiz dans une année avec 3-2 dedans.
C'est vrai.
Pour le prochain, il faudra attendre 2202, c'est loin.
Ah ouais.
Non, si c'est ça.
Si c'est ça. Et bref, du coup, pour ce quiz, le thème étant routier, j'ai décidé de vous passer des passages de Sibi.
2122.
Et vous devrez...
C'est vrai.
Je t'emmène.
Tu
me dis si tu t'ennuies. Tu veux que j'en aille?
Non, mais j'étais là. Ah, ok.
Sibi. Donc, tu vas nous mettre des extraits de Sibi.
Oui.
Pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent.
La Sibi, c'est une onde particulière, courte portée. Et en fait, c'était aussi un objet que les routiers et les artisans et certains automobilistes avaient dans leur camion.
Pour
discuter entre eux.
C'est comme Waze, mais avant, quoi.
C'est comme Caramel, mais avec la voix. Et par radio.
Ça me bat.
je trouve que voilà. ni Caramel ni Waze sont des. Peut-être éventuellement Tokyo Walkie.
Ah, c'est Tokyo Walkie, c'est les mêmes.
Mais c'est ce que tu as utilisé dans ta chronique, simplement.
Tout à fait.
Waze, ça sert quand même à signaler aux gens les choses, on peut parler.
Parce que c'est vrai que normalement, les Sibi, ça servait majoritairement à ça. Ça servait à dire il y a des flics à cet endroit, il y a attention, la route est fermée, etc. Ça servait à ça.
Mais c'est un truc audio, Waze, je sais pas, c'est un GPS.
Oui, bon, écoute, on n'est pas d'accord. Mais c'est bien, ça crée un antagonisme entre nous.
Exactement. Et du coup, je vais vous passer des passages de Sibi, des extraits audio, entre guillemets. Je vais juste les faire à la voix, hein, parce que je ne les ai pas préparés en amont, vous en doutez. Et vous devrez deviner...
À quel endroit on est en France ?
Non, qui a diffusé ce message ?
Mais qui, c'est-à-dire ?
Et bah, vous verrez, parce que du coup, je vais utiliser des pseudos, il y aura des indices aussi dans ce que je vais dire, etc. Et vous devrez dire, ah ok, bah, cette personne-là, c'est telle
Patrick
personne
Sébastien.
Connue. C'est Patrick Sébastien, par exemple. Tu vois.
C'est toi
qui... Tu fais chier.
Ah, tu les as passés dedans, il faut reconnaître ?
Oui.
Ok, j'ai mis du temps à percuter.
Oui.
Tu les as quoi ?
Je les ai placés dedans.
En gros, il a mis un filtre sur... Oui, c'est ça, en fait. Oui. Ok, pour ton storytelling. Okay,
exactement.
Je suis désolé,
mais c'est pas grave. Okay, tu veux dévoiler les coulisses ? Oui. J'ai un texte. C'est Google Doc. Vous voulez l'adresse du Google Doc ?
Google Doc.
Il y a ma chronique aussi dessus.
35 rue de la République.
Drôle.
Oui, drôle. Drôle.
Bref, et il est temps de choisir des équipes, les gars.
Je suis l'équipe...
Waze.
Dimitri Payet.
Tu es l'équipe Dimitri Payet et toi tu es l'équipe, donc Thomas est l'équipe Dimitri Payet et Vic est l'équipe Waze, c'est ça, ça vous...
Non, non, Waze c'était pour Thomas, non je suis non. Pas Waze, Waze c'est pas une CB.
Est-ce que Dimitri Payet c'est une CB?
Qui c'est?
Moi je suis l'équipe Takiwaki.
Équipe Tokiwoki contre... pas Tolkiwoki, non.
Non, Tokiwoki.
L'équipe Tokiwoki et l'équipe Dimitri Payet. Juste pour info... Fumez-vous, il n'y a pas de souci. Juste pour info...
Il y a la fenêtre.
C'est pas un jeu de rapidité. Vous me laisserez finir mes messages. Allez, et vas-y. Vous direz à la fin, etc. Comme la dernière fois.
Okay.
Vous êtes prêts pour le premier ?
On est tout à fait prêts.
Très bien.
Ici Jean-Phil Lightfire sur la 902 en partance de Marne-la-Coquette. Attention au premier feu rouge, en arrivant au rond-point de Castorama, il est éteint et ça peut provoquer des dégâts. Ce serait quand même pas mal que les messieurs de la maréchaussée s'occupent d'allumer ce feu. Tiens, dis donc, ça ferait une bonne chanson ça.
Tokiwoki.
Tokiwoki ?
Johnny. C'est quoi que t'as dit au début ?
Marne-la-Coquette.
Jean-Phil Lightfire, c'est son pseudo.
J'ai pas la rêve de Jean la Coquette.
Marne la Coquette,
c'est sa ville, c'est là où il est mort. Il avait un petit château sympa.
J'avais été invité.
Jean-Phi, c'est son prénom surtout, quoi. Jean-Philippe Smet. Jean-Phi Lightfire, du coup, c'était son pseudo. Voilà. Vous êtes prêts pour le prochain ?
Tout à fait.
Ok.
Toto Rocket Rider cherche compagnie après un long séjour en solo dans un endroit exotique et très reculé. Pour un soir ou pour la vie, une chose est sûre, je vous ferai voyager sur la Lune avec mes poèmes. Pour toutes les intéressées, rejoignez-moi Canal 6.
Thomas Pesquet.
Tout à fait.
Il écrit de la poésie pour de vrai ?
Je pense. Il met la photo, je pense. Plein de trucs et tout. Tu vois. C'était surtout pour caler « Je vous ferai voyager sur la Lune », qui était un gros indice qui vous permettait, etc.
Oui, parce qu'il est sur la Lune, c'est bien connu.
Mais bien sûr.
Ouais, tous les jeunes qui se mettent dans un exposé à nouveau, vous allez avoir une bonne note, vous n'inquiétez pas.
Allez, venez les garçons, c'est comme ça, c'est précis.
C'est scientifique, c'est un podcast scientifique.
Bien sûr.
Et donc, du coup, il s'appelle Toto Rocket Rider.
Évidemment.
Parce qu'à la base, je voulais juste vous faire les pseudos et je me suis dit, c'est impossible.
Non, Toto Rocket Rider,
c'est impossible. Mais c'est drôle. Parce que Thomas Pesquet et puis Rocket Rider.
Oui, mais j'ai
Florian. Florian, il explique la blague, mais juste il la relie.
Prêt pour le prochain ?
Allez.
Vends en voiture électrique. Faible kilométrage, autonome. Je vends pour cause de gros projets un peu coûteux. Contactez-moi, je m'appelle TechnoKing. Je suis présent régulièrement sur ce canal. J'accepte les crypto-monnaies.
C'est facile. Elles sont plus faciles que les quiz normaux.
Moi, j'aurais dit que c'était toi.
Ah non, enfin, ou alors
donc Tokiwoki, tu as
Tokiwoki, Elon,
c'est Elon Musk, c'est tout Elon. À fait, ouais. En fait TechnoKing,
toi aussi t'as un gros projet et une voiture électrique,
c'est vrai.
TechnoKing, c'est son pseudo, c'est son petit
TechnoKing,
ouais. En fait dans les médias aux États-Unis il l'appelle TechnoKing,
quel trou de gueule, quel trou de balle, ce gars.
Ça m'étonne tellement pas.
Donc voilà,
ok,
le prochain, j'en ai que 6, faut les apprécier, faut les savourer, c'est des petits bonbons sucrés,
c'est beaucoup 6,
on a déjà fait 3, ça va vite,
mais bon.
Le prochain.
Taratatorskiller sur les ondes. Ici, Taratatorskiller. Je vous signale une présence dangereuse de chevaux sur la D.
Je sais qui c'est, moi aussi. C'est très drôle. C'est très drôle.
C'est Nagui, c'est ça ?
C'est tout à fait. Je vous accorde un point chacun.
C'est
Nagui, Taratatorskiller.
Il faut expliquer pour les auditeurs qui n'ont pas Twitter.
Oui, ouais. Je te laisse le faire d'ailleurs.
Il y a un an ou deux de ça, je ne sais plus, sur Twitter. Enfin, il y a un an ou deux, surtout, il y avait des.
Dans la vraie vie, avant d'être sur Twitter.
Ouais, mais il y avait des chevaux dans la vraie vie, justement, qui se faisaient.
Trucider.
Ils ne se faisaient pas tuer, mais simplement.
Décapiter.
Ouais, ils se faisaient. ouais,
ah, ils se faisaient tuer.
Je sais pas quel terme, mais ouais, ils se faisaient pas tuer. Je crois qu'ils étaient vivants, mais ils étaient blessés, ils étaient blessés quoi. Ils avaient des
mutilés,
des, ouais. des mutilés exactement. Ils se faisaient mutiler, c'est le terme. Et partout, il y avait, on savait pas qui était le mutileur de chevaux quoi. Et c'était un truc qui durait dans les médias. Et un jour, un matin, t'arrives sur Twitter et il y avait, je sais pas quoi, hashtag trending topics, Nagui tueur de chevaux. Et genre, il y a eu la rumeur que c'était Nagui, donc l'animateur télé,
Taratata,
etc., qui allait trucider des chevaux sur son temps libre d'animateur télé.
Et pourquoi
évidemment,
pas.
C'était faux. Mais juste, ça a pris. En fait, ça a fait tellement rire les gens. Et moi, je trouve ça très drôle.
Il a même répondu, je crois.
Ouais, bah, j'espère bien. Attends, ouais. Bah, c'est quand même une ordure de faire ça.
C'est clair. Bravo. C'est pas bien de faire ça.
Plus que deux, nous sommes du coup à 3 points pour Tokiwoki et 2 points pour notre cher ami David Beckham. Parce que j'ai oublié.
Dimitri Payet,
David Beckham, pas loin, un peu de choses près.
Ouais, bon.
Le prochain, attention aux oreilles.
À tous les chauffeurs de la D915 sortie Méribel, c'est Mick Wurst qui vous parle. Faites gaffe en descendant de vos camions. La station est complètement verglacée. Ce serait con de se fracasser le crâne.
Mick Wurst ?
Michael Schumacher.
Tout à fait.
Putain,
c'est un peu du monde noir.
Je rêve. Ah.
T'étais fort à ce jeu.
Deux jours après Gaspard Ulliel,
Ça va. J'ai fait Johnny, j'ai fait.
J'ai bien aimé le. C'est un peu mordant. Parce que Michael Schumacher s'est fait mal aussi.
Ouais, c'est un peu mordant.
C'est vrai,
mais
il est pas
il
mort.
Il s'appelle Mickey Wurst, quoi. Mickey Wurst, nom d'acteur porno, plus de.
Ouais, c'est ce que je me suis dit en plus. En écrivant, je me suis dit, oh là là. Le dernier, vous êtes prêts?
Ouais.
Rien à vendre, rien à signaler. Juste à tous les conducteurs de poids lourds, vous êtes tous des enfoirés. C'était Coco Kawasaki, ciao les cons.
Coluche ?
Tout à fait.
Ah, conducteur de poids lourds, etc. Ouais. Il est très fort. Il est très
Coco
très
Kawasaki,
fort.
Allez,
Coco
moto,
Kawasaki. Ah, Kawasaki. Putain, le gars, voilà. Il est informé. Hein.
Mais Sibi, mec.
C'est moi j'étais parti, je vais vous dire la vérité. Hein. Un mec qui aime pas les poids lourds. Coco, je sais pas quoi, je dis ok, c'est NPA, quelqu'un qui est écolo chez NPA ou Parti communiste français, genre.
Ah, t'es parti politique quoi.
Bah, je suis parti loin quoi.
Moi, je comprends.
Bah, tout est politique.
Je comprends. Non, j'essaie d'avoir à chaque fois un petit lien avec la route et j'avais Nagui. Parce que c'était drôle quand même quoi. Donc voilà.
Bravo
Vic pour le grand vainqueur de ce premier quiz de l'année.
Bravo Ricky.
Voilà, c'était assez Merci. Court, mais j'ai trouvé ça drôle de les écrire, donc peut-être que ça reviendra. C'était le CB quiz.
Le CB quiz.
Merci pour le CBQ, c'était très très bien, c'était de bonne qualité, de bonne lecture, comme à ton habitude, tu es un artisan de la vanne, et c'est pour ça qu'on t'aime. Il est temps d'arriver au point culminant de la soirée, c'est le moment où on va devoir, Florian, te donner un contrainte.
C'est vrai, c'est mon tour de prendre
pour
le contrainte.
Pour ton prochain chronique de la épisode prochaine,
oui, 66.
Qui sera dans le thème Dum-Dum, donc dans
tout à fait, pour rappeler,
le prochain, ouais. Et donc tu vas avoir le choix entre le contrainte de Vic
aka de Ricky
ou le contrainte de
Thomas
Dimitri.
Aka Dimitri. Et moi, vas-y, tu veux expliquer ton contrainte.
Alors moi, allez, mon contrainte est plutôt méta. Mais
d'accord.
Méta pas trop compliqué. Mais disons qu'elle est, méta, elle va faire intervenir quelque chose du monde réel, en gros.
C'est celle que je pense ?
Oui.
Ok.
Ouais, ça me semblait bien.
Moi, la mienne est plutôt facile. Ça va devoir, en gros, je t'impose une c'est une contrainte dans l'histoire, il va falloir qu'il se passe un événement précis.
D'accord.
Et après tout le reste, tu fais ce que tu veux. Mais je vais t'avouer un truc, j'ai plutôt envie que tu lises, parce que je connais le contrainte de Ricky ici présent, de Vicky Ricky, et j'ai envie de te dire, prends le sien. C'est plus drôle.
Non, parce qu'en fait, à la base, je me suis dit, je vais prendre celui de Thomas, parce que je pense qu'il est plein de compassion, parce qu'il a déjà commencé à écrire la chronique Dum-Dum. Il sait qu'elle est difficile.
Mon contrainte est une contrainte collective, ce qui peut être une option des contraintes.
Ah.
Donc, on y réfléchit ensemble.
On y arrive, voilà.
D'accord. Donc, tu faisais Panteto Wawa.
Bah, je vais prendre le contrainte de Ricky alors à ce moment-là. Allez. C'est quoi ton contrainte ?
C'est que on va devoir apparaître, nous trois.
Ah, c'est rigolo.
Dans ta
c'est
chronique,
très rigolo.
Dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Ah, t'es pas rigolo, forcé de faire de nous des personnages principaux. Tu fais ce que tu veux, mais on doit apparaître
dans l'histoire.
On est dans l'histoire, quelque part.
Très bien.
Où tu veux.
Extrêmement égocentrique.
C'est vrai.
On est vraiment là.
Écrit comme moi.
C'est pas impossible que pendant que tu lises ta chronique, on se masturbe. C'est pas impossible.
Surtout qu'en plus, je pense que je suis celui qui a le plus écrit de chroniques centrées autour d'Aline et Garçon. J'ai fait la Discord de la mozzarella.
Ouais.
The mozzarella Discord.
Avec le futur et tout de
Aline
et Garçon. J'ai fait
le
processus.
Non, il me semble que j'en ai fait d'autres, mais j'en ai plus lesquelles.
Ouais, j'en avais fait quelques-unes aussi. Et peut-être on en a tous fait quelques-unes. Ouais. Donc je pense
au début, on aimait bien faire ça.
Ouais, c'est vrai.
Musique, tout de suite, pour se dire au revoir, musique du centre de l'Amérique latine, du centre de l'Amérique. Ce sera de la musique de Jurassic Park.
Ah, ouais, c'est vrai.
Musique tout de suite. Florian, à toi de donner ton amour aux auditeurs avec des alexandrins, on t'écoute.
Eh bien, non, cette fois-ci, alors là, désolé les alexandrins, je vous aime tous,
désolé,
les alexandrins,
Alexandre.
mais je vais vous faire du mal, là, tout de suite maintenant. Non, c'est aux auditeurs de nous envoyer de l'amour, c'est aux auditeurs de nous envoyer...
Des biscuits.
L'amour, c'est quoi?
Des biscuits.
L'amour, c'est des thèmes. L'amour, c'est des messages, c'est des likes, c'est des pouces,
c'est des cadeaux,
c'est plein de choses comme ça.
Des cadeaux, si vous voulez passer devant Eve dans le top 1 d'auditeurs, des cadeaux qui, qui ont clair. Plus de valeur. Voilà,
ah, d'ailleurs, vous vous rappelez, on a fait un jeu concours dernier épisode.
Ah oui, c'est vrai.
Bah voilà, il y a des gens qui ont gagné, ça a été envoyé à ces gens-là. Voilà. J'ai pas les noms en tête, je crois que j'ai pas les noms en tête. Mais si vous avez gagné, vous le savez.
Voilà, ouais.
Et voilà. Par contre, vous avez toujours pas reçu le cadeau.
Non,
ça c'est fort probable. Mais c'est pas grave. Et merci beaucoup d'avoir participé et surtout envoyez-nous des thèmes, des likes et tout ce que
Moi je voudrais ajouter autre chose, apparemment on peut noter sur Spotify maintenant les podcasts qu'on écoute. Si vous nous écoutez sur Spotify, mettez-nous des petites notes parce que ça va nous aider, etc. Sur Apple Podcast on pourrait déjà le faire. Maintenant on pourrait le faire aussi sur Spotify. Donc mettez-nous des bonnes notes, ça va nous faire émerger et peut-être qu'un jour on sera millionnaire. Voilà, c'est
peut-être, peut-être.
Tout comme Techno King.
Et on partagera pas mais. On fera des plus simples, des épisodes encore plus sympas.
Oui,
peut-être
avec des acteurs.
Non, mais surtout, qu'on sera libre financièrement de nos travaux, de notre travail,
on aura du temps,
pour le grand capital, on aura du temps.
Besogne.
Et on fera Allez, les garçons, au quotidien, c'est ce qu'on vous promet. Un épisode par jour, c'est la promesse que je vous fais ce soir. Votez pour moi. Bisous, bisous.
Bisous.
Rentrez bien chez vous, doucement sur la route. On se retrouve dans un mois. On vous aime.